Mortimer avait glané d'autres nouvelles chez le banquier Ptolomei qui lui faisait passer son courrier outre-Manche. Les Lombards avaient un meilleur réseau de postes que la cour, et leurs voyageurs étaient plus habiles à dissimuler les messages. Ainsi, la correspondance entre Mortimer et l'évêque Alton était à peu près régulière. L'évêque avait payé cher d'avoir monté l'évasion de Mortimer, mais il était courageux et tenait tête au roi. Premier prélat d'Angleterre, jamais traduit devant une juridiction laïque, il avait refusé de répondre à ses accusateurs, appuyé d'ailleurs par tous les archevêques du royaume qui voyaient leurs privilèges menacés. Édouard avait poursuivi le procès, fait condamner Orleton et ordonné la confiscation de ses biens. Édouard venait également d'écrire au pape pour demander la dépossession de l'évêque, comme rebelle. Il était important que Monseigneur de Valois agît auprès de Jean XXII pour empêcher une telle mesure dont le résultat eût été de porter la tête d'Orleton sur le billot. Pour Henri Torscol, la situation était confuse. Édouard l'avait fait en mars comte de Lancastre, lui rendant les titres et les biens de son frère décapité, dont le grand château de Kenilworth. Puis, tout aussitôt, pour avoir eu connaissance d'une lettre d'encouragement et d'amitié adressée à Arleton, Édouard avait accusé Torscol de haute trahison. Ptolomei, à chaque visite que Mortimer lui rendait, ne manquait pas de dire à l'exilé « Puisque vous voyez souvent Monseigneur de Valois et d'Artois, et que vous êtes bien leur ami, rappelez-leur, je vous prie, ces bouches à poudre qu'on a expérimentées en Italie et qui serviront beaucoup au siège des villes. Mon neveu à Sienne et les Bardi à Florence peuvent s'occuper de les fournir. Ce sont pièces d'artillerie plus faciles à mettre en place que les grosses catapultes à balancier et qui font plus de dégâts. Monseigneur de Valois devrait bien en équiper sa croisade. » Les femmes, dans le début, s'étaient assez intéressées à Mortimer, à cet étranger au beau torse tout vêtu de noir, austère, et qui mordillait la cicatrice blanche qu'il avait à la lèvre. Elle lui avait fait raconter 20 fois son évasion. Tandis qu'il parlait, de belles poitrines se soulevaient sous les transparentes gorgières de lin. Sa voix, qui était grave, presque rauque, avec un accent inattendu sur certains mots, touchait les cœurs oisifs. Robert d'Artois, à bien des reprises, avait voulu pousser le baron anglais dans ses bras, qui ne demandait qu'à s'ouvrir, comme il s'était offert à lui procurer quelques folieuses, par paire ou par tiercet, pour le distraire de ses soucis. Mais Mortimer n'avait cédé à aucune tentation, au point qu'on se demandait d'où lui venait cette rare vertu et s'il ne partageait pas les mœurs de son roi. On ne pouvait imaginer la vérité, à savoir que cet homme, le même qui avait parié son salut sur la mort d'un corbeau, avait misé son retour en fortune sur sa chasteté. Il s'était fait la promesse de ne pas toucher femme avant d'avoir retrouvé et la terre d'Angleterre, et ses titres, et sa puissance. Un vœu de chevalier, tel qu'aurait pu le prononcer un Lancelot, un Amadis, un compagnon du roi Arthur. Mais Roger Mortimer devait s'avouer après tant de mois qu'il avait choisi son vœu un peu légèrement, et ceci contribuait à lui assombrir l'humeur. Enfin, de satisfaisantes nouvelles arrivèrent d'Aquitaine. Le sénéchal du roi d'Angleterre, messire Basset, homme d'autant plus sourcilleux que son nom prêtait à rire, commença de s'inquiéter de la forteresse qui s'élevait à Saint-Sardos. Il y vit une usurpation des droits de son maître et une insulte à sa propre personne. Ayant réuni quelques troupes, il entra dans Saint-Sardos à l'improviste, mit la bourgade au pillage, appréhenda les officiers chargés de surveiller les travaux et les pendit au poteau fleur-de-lycé qui signalait la suzeraineté du roi de France. Messire Ralph Basset n'était point seul dans cette expédition. Plusieurs seigneurs de la région lui avaient prêté la main. Robert d'Artois, le jour qu'il en fut informé, alla quérir aussitôt Mortimer et l'entraîna chez Charles de Valois. Il débordait de joie et de fierté, Monseigneur d'Artois. Il riait plus fort que de coutume et donnait à ses familiers d'amicales tapes qui les envoyaient rebondir contre les murs. Enfin, l'on tenait l'occasion née de son inventive cervelle. L'affaire fut aussitôt évoquée au conseil étroit. On fit les représentations d'usage et les coupables du sac de Saint-Sardos se virent assignés devant le Parlement de Toulouse. Allaient-ils se présenter, reconnaître leur tort, faire soumission? On le craignait. Par chance, l'un d'entre eux, un seul, Raymond Bernard de Montpezat, refusa de se rendre à la convocation. Il n'en fallait pas davantage. On rendit un jugement par défaut, et Jean de Roy, qui avait succédé à Pierre-Hector de Galard comme grand maître des armes à l'étrier, fut envoyé en Guyenne avec petite escorte afin de se saisir du sire de Montpezat, de ses biens, et de présider au démantèlement de son château. Or, ce fut le sire de Montpezat qui l'emporta. Il retint prisonnier Jean de Roy et exigea rançon pour le rendre. Le roi Édouard n'était pas pour rien dans cet incident, mais son cas s'aggravait par la force des choses, et Robert d'Artois exultait. Car un grand maître des arbalétriers n'est pas un homme qu'on séquestre sans qu'il s'ensuive des conséquences graves. De nouvelles représentations furent adressées au roi d'Angleterre, directement cette fois, et assorties d'une menace de confiscation du duché. Au début avril, Paris vit arriver le comte de Kent, demi-frère du roi Édouard, secondé de l'archevêque de Dublin. Il venait proposer à Charles IV, pour régler leurs différends, de renoncer tout simplement à l'hommage d'Édouard. Mortimer, qui rencontra Kent à cette occasion, leurs rapports restèrent courtois bien que la situation fût difficile, lui démontra l'inutilité totale de cette démarche. Le jeune comte de Kent en était d'ailleurs lui-même persuadé. Il s'acquittait de sa mission sans plaisir. Il repartit en emportant le refus du roi de France, transmis de méprisante manière par Charles de Valois. La guerre inventée par Robert d'Artois semblait sur le point d'éclater.